Laurent Trépanier-Capistran, bonjour.
Bonjour, très content d'être avec vous.
Laurent, qui est avocat et juriste pour quoi? Juriste à domicile?
Exactement.
Donc, si j'ai des problèmes de loi, je vous appelle, vous venez chez moi.
C'est ça va nous faire plaisir.
On parle de la fameuse loi au PHQ qui finalement parle d'obligation de contenu. On veut finalement l'exercice des droits des personnes handicapées dans l'inclusion autant scolaire que professionnelle. Peut-être nous ramener dans le contexte du début de cette loi. Je présume que c'était d'abord des pressions associatives.
Tout à fait. Donc ça, c'est une loi qui a été créée en fait en 1978. Et puis effectivement, un des éléments qui pousse l'adoption d'une telle loi, c'est entre autres la mobilisation du milieu des personnes en situation de handicap au Québec. Et donc, et qui va finalement venir également créer ce que l'Office des personnes handicapées du Québec, là, ce qu'on appelle par son acronyme l'OPHQ, et qui est créé d'une part par cette loi-là et qui va tenter de veiller à son application également par la suite.
Qu'est-ce que ça a permis comme gain, cette loi, pour les personnes handicapées?
Bien, je dirais deux choses en particulier. Peut-être que je pourrais en ajouter d'entrée de jeu une troisième, c'est-à-dire un peu plus, si j'emploie bon terme français, d'exposure. T'sais, c'était une des premières fois où on venait en parler
Visibilité.
juridiquement, donc, mais qui est peut-être un aspect moins juridique. Mais au niveau du contenu de la loi, je dirais qu'au plan des institutions, ça va venir créer une obligation pour les institutions d'adopter des plans d'action. Donc, notamment pour les ministères, les organismes publics et les municipalités de plus de 15 000 habitants, ça va venir leur créer une obligation d'adopter un plan. Et ce plan-là, ce plan d'action-là, ce qu'il prévoit en fait, c'est d'abord un document qui doit être produit annuellement et qui doit identifier les obstacles à l'inclusion des personnes en situation de handicap, les mesures pour améliorer la situation dans les années qui viendront et les mesures à long terme ensuite. Et donc, je tiens à le rappeler aussi, puisque j'ai eu la chance de participer à l'élaboration de certains d'entre eux, que ce plan-là, il ne doit pas uniquement viser hein, les lieux physiques, là, il doit aussi viser, si on donne des services ou des biens, ça doit être inclus dans ce plan-là. Donc, souvent, il y a comme une espèce de conception dans le sens commun qui nous dit, ah, c'est juste pour les lieux physiques, mais non, ça touche aussi les services. Donc, de là aussi, peut-être le gain plus substantiel là, que juste au niveau de l'accessibilité des lieux.
Qu'est-ce qui arrive pour les villages ou les petites villes de moins de 15 000 habitants?
Eh bien,
Depuis le temps là, qu'on parle des 15 000 et plus, on ne s'est pas encore adapté aux 15 000 et moins?
non, mais en fait, au niveau de la loi de l'OPHQ, effectivement, il n'y a aucune obligation. Ensuite, c'est-à-dire qu'une municipalité pourrait, de son plein gré, décider d'adopter un plan, mais elle n'est pas forcée de le faire par la loi OPHQ, en fait.
Est-ce qu'il y a des consultations publiques pour reconnaître les obstacles ou les limitations des personnes de la ville en question?
Si les villes ont l'obligation de
Si
faire
les
des
villes
consultations?
consultent leurs citoyens?
Ben, et en fait, ça, c'est pas, je ne pense pas que ça apparaît dans les obligations. Donc, ils doivent produire un document, mais ensuite, sur le comment, il y a peu d'indications, si je ne m'abuse, dans la loi
OK.
au PHQ.
Et
Mais il y
alors,
a peu de sanctions également. Là, on dit qu'ils doivent produire, mais s'ils ne le produisent pas, c'est pas plus grave que ça, vous ferez mieux l'année prochaine.
effectivement, donc il y a l'obligation, donc légalement, ils doivent le faire. Donc ça, je veux être clair là-dessus, mais si ce n'est pas fait, il y a très peu de conséquences qui sont prévues directement dans la loi. Ensuite, il pourrait peut-être y avoir des conséquences politiques, c'est à voir, mais au niveau juridique, effectivement, il y a très, très peu de conséquences. Si je reprends certaines mesures là, qui peuvent être sanctionnées, par exemple, par des amendes, ben on retrouve dans la loi une certaine obligation de confidentialité qui appartient à l'OPHQ, une obligation pour les organismes de collaborer avec l'Office de l'OPHQ, en fait. Et certaines amendes qui peuvent être octroyées si on n'autorise pas une personne à entrer sur des lieux pour faire des vérifications qui proviendraient de l'OPHQ, notamment par rapport à l'octroi de subventions. Donc, on voit qu'il y a très, très peu de mesures qui vont nous forcer ou nous faire peur, là, entre guillemets, pour forcer à appliquer là, ces plans d'action-là ou à les mettre en œuvre ou tout simplement les faire.
OK. Est-ce que on note les bons élèves? Est-ce qu'il y a des évaluations, un organisme indépendant qui a un regard ou
Il n'y a rien de prévu à cet
non?
effet-là dans la loi. Encore une fois, c'est pas parce que je tiens à le préciser que c'est pas prévu dans la
Ouais.
structure juridique que c'est pas, ça
Ça
veut pas
n'existe
dire que ça
pas.
n'existe pas. Mais ce qui est intéressant peut-être de noter, c'est que si c'est pas prévu dans la loi, puis par exemple, il y a une coupure de budget, puis c'est une portion qui doit être sacrifiée, bien, on n'est pas forcé de la conserver. Donc, c'est peut-être la nuance là, qu'on peut apporter ici. Et peut-être ajouter également qu'au niveau des individus aussi, il peut y avoir des choses intéressantes. Par contre, dans cette loi-là, il y a pas. On parle beaucoup aussi de la force coercitive, mais l'OPHQ a l'obligation, en fait, de créer des plans de services. Donc, on a parlé de plans d'action pour les institutions, pour les individus, plans de services. Et c'est un droit pour toute personne handicapée au sens de la loi de demander la préparation de ce plan de service-là qui peut inclure notamment un programme de réadaptation fonctionnelle, médicale, sociale, un programme d'intégration scolaire ou professionnelle selon le cheminement de l'individu et de l'aide aussi pour obtenir les différents services offerts. Ça, c'est une obligation qui incombe à l'OPHQ. Donc, au niveau des individus, ça peut aussi être intéressant et peut-être ajouter qu'on peut... comment procéder là, à cette demande de plan de service-là? Ben, c'est tout simplement sur dépôt d'une demande. Et là, l'office, si à la maison vous faites une demande, l'office a l'obligation de vous remettre une décision finalement sur votre admissibilité ou non. Et si vous êtes admissible, ben, tout simplement, là, le plan de service, vous allez être pris en charge.
Sait-on si l'évaluation est assez rapide? Parce que si tu veux avoir un plan puis t'intégrer dans ton école pas loin de chez toi, eux, ils n'attendent pas après toi. Hein? Le bulletin, c'est telle date.
Effectivement, là, pour ce qui est des délais internes de l'office, je vous avoue ne pas être au
mais
courant.
Mais dans la loi, il n'y a pas de prescription. Vous devez remettre un plan de service à l'intérieur des temps de jour. Ou...
On parle d'un délai de 60 jours, si je ne m'abuse. Et puis là, si jamais ce n'est pas remis, il peut y avoir des discussions avec l'office. Mais effectivement, il existe un délai là, qui est prévu dans la loi, qui est relativement rapide. Ensuite, à voir s'il est respecté dans la réalité, ça. Moi, comme je vous dis, je vous parle de la structure juridique aujourd'hui. Mm-hmm.
Laurent, c'est un sujet plate, mais qui doit être abordé et j'aimerais ça qu'on le refasse, qu'on le poursuive. C'est quand même 40 ans. Oui. J'aimerais ça qu'on ait le temps et qu'on prenne le temps de voir, tu sais, plus spécifiquement les bons coups, les moins bons coups, là où ça tarde, là où, bon, peut-être l'accessibilité en bâtiment, les leviers dans cette loi-là. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'y revenir. Laurent Trépanier, Capistran, donc, je le rappelle, est avocat et juriste pour Juriste à domicile.